Le début là, du mois de septembre et les jours là, qui arrivent sont très denses du point de vue marial. On a trois fêtes mariales là, qui vont se succéder. Il y a d'abord, c'est dans 3 jours, mercredi, la solennité de la Nativité de la Vierge Marie. Ça représente cette fête la grande préparation à la rédemption. Marie, eh bien, a été fabriquée par Dieu pour accueillir le Verbe de Dieu, mais pas seulement pour l'accueillir, et puis vous savez, comme une coquille d'œuf, une fois que le poussin est sorti, bon, la coquille, elle disparaît. Bah, pas du tout. La Vierge Marie, c'est la seconde fête, ce sera dimanche prochain, le Saint Nom de Marie. Une fête discrète, mais réelle, où le chrétien est invité à contempler et à invoquer la nature. La Vierge, bien sûr, mais en tant qu'Immaculée Conception, dans ce qui fait l'essence de son être. Et c'est de ce point de vue-là qu'elle n'est pas seulement une coquille ou un coquillage que l'océan ramène au rivage une fois que l'animal qui l'enserrait est parti. Enfin, le 15, ce sera, juste après la Croix Glorieuse, ce sera la célébration de la Mère des Douleurs. Et là, on voit la Vierge Marie, eh bien, qui coopère à l'œuvre de la rédemption cette fois-ci. Et nous devons aussi la contempler sous cet angle-là. Donc, ces trois fêtes couvrent à peu près toutes les facettes du culte marial. Et au passage, d'ailleurs, la fête de Marie, Mère des Douleurs, c'est aussi la fête de la congrégation passionniste, ma congrégation, puisque elle est notre sainte patronne en tant que mère des douleurs. Alors, du temps de mon fondateur, la fête n'existait pas encore. Donc, c'était la mère de la Sainte Espérance qui était c'est sous vocable qu'elle était notre sainte patronne. Mais depuis que, récemment, avec le concile, eh bien, cette fête a été instituée, eh bien, c'est sous ce vocable-là que nous l'invoquons, bien évidemment. Au pied de la croix, les passionnistes, c'est leur charisme. L'Église, eh bien, nous introduit vraiment au mystère de Marie. Et plus que cela, elle nous invite, eh bien, à lui ressembler, à l'imiter. Alors, comment imiter Marie? Eh bien, on la contemple d'abord, et ensuite, eh bien, on essaye de vivre avec. Selon cette contemplation, selon ce que la Vierge Marie, eh bien, nous inspire. Parce que la Vierge Marie, par son Immaculée Conception, c'est le rétablissement de la nature humaine avant le péché originel. C'est vraiment la guérison de ses blessures. Donc, contempler Marie, devenir comme elle, faire comme les enfants. En fait, les enfants, ils imitent beaucoup leurs parents, et pas pour devenir semblables. Pas pour devenir des clones des parents, mais c'est ça l'éducation, c'est leur source d'inspiration. La Vierge nous est donnée pour cela. D'abord, vivre de la beauté. Ça, c'est ce qui frappe au premier abord quand on fréquente un peu la Vierge Marie, cette beauté éblouissante. La beauté, c'est Dieu, c'est un attribut divin. Mais on peut dire que vraiment, la Trinité a fabriqué Marie, a forgé Marie, a façonné Marie, je ne sais pas comment dire, mais pour être un reflet de la gloire, pour nous inviter constamment, et c'est là c'est très important, l'éducation à la beauté véritable, eh bien, parce que ça nous parle de Dieu. Vous voyez, dans l'art contemporain, qui suit de l'influence du monde dont il est l'expression, eh bien, c'est la beauté a cessé d'être le critère. Ils se sont concentrés sur faire éclater une vérité, pas la vérité, une vérité. Et l'art contemporain, eh bien, est devenu quelque chose, une sorte de culte de la laideur. T'as une fascination de la laideur, mais artistiquement contemplée, il est vrai. Mais qui est tout le contraire de l'art, en fait. Et c'est complètement dénaturé, alors que réellement, l'art devrait nous être un reflet de la beauté, précisément. Et parce que la beauté, c'est cette grande vérité que l'artiste doit faire luire et paraître au grand jour précisément. C'est parce que vérité et beauté sont inséparables, puisque c'est un attribut divin. Le cœur pur, l'innocence, c'est la seconde chose que nous devons imiter, remarquer, contempler en Marie, mais pour l'imiter, c'est un programme spirituel. Son cœur immaculé lui permet de contempler les anges. Et c'est vrai qu'un cœur purifié, eh bien, est un cœur qui voit l'invisible, rend capable de voir l'invisible. Ah, les anges lumineux, mais aussi les ténébreux, il est vrai. Mais ce monde invisible se manifeste au cœur pur. Ensuite, il y a Marie a pour vocation d'avoir été une mère et une épouse. Et c'est vraiment la vie familiale que nous devons regarder comme éducation à la vie fraternelle en général. Dans l'Église, c'est l'imitation de la fraternité des apôtres qu'on veut imiter. Mais en réalité, où est-ce qu'on apprend la charité fraternelle? C'est vraiment dans la famille. Parce qu'il y a cette alliance qui permet de surmonter les tensions, de surmonter les différences, etc. La famille, c'est une chose fantastique. Et vraiment, Dieu a consacré la famille par l'incarnation. Elle existait, mais il en a fait quelque chose de fondamental pour l'être humain et son développement. Ça s'oppose évidemment à l'individualisme psychologique qui mène tout droit et progressivement à cette solitude spirituelle qu'est l'enfer. L'individualiste, on vit dans un monde qui est désormais profondément individualiste, qui éduque, qui insuffle l'individualisme à tous et qui on s'en rend compte par les effets. Ce monde d'individualiste est un monde qui tend vers l'esclavage, parce que l'individualiste ne peut rien contre le tout, l'individu tout seul, isolé, et effectivement, il se trouve isolé, il perd confiance, c'est le propre de l'individualisme, donc il se sépare, et il ne trouve pas évidemment les énergies nécessaires pour résister au rouleau compresseur de Babylone, et il se fait égrabouiller et enchaîner. Spirituellement, c'est bien plus grave parce qu'il perd confiance même dans l'Église, dans cette institution merveilleuse que le Christ a fondée. Il perd confiance en tout, il ne se fie qu'en lui et il découvre toujours davantage que lui n'est rien. Donc il s'évapore, le pauvre individualiste contemporain. Marie est un remède à ça. Marie, c'est l'anti-individualisme, c'est l'amour oblatif absolu. C'est celle qui se donne continuellement à chaque heure du jour et de la nuit dans sa vie terrestre et dans sa vie éternelle désormais. Elle est aussi, elle nous insuffle la sagesse de la foi. Elle nous montre comment, par une méditation amoureuse, une contemplation amoureuse, une observation amoureuse et constante, persévérante, elle nous apprend à méditer sans cesse la révélation et comment cette révélation se transforme en sagesse au bout d'un moment, progressivement. Alors il ne faut pas être trop pressé, mais en même temps, ça s'opère vraiment. Il y a une purification de l'intelligence par la contemplation, la méditation de la Bible et la confrontation avec le monde qui nous entoure. Marie n'est pas fait d'études. Et pourtant, en gardant toute chose dans son cœur, elle est devenue le symbole de la sagesse. Elle est évidemment au pied de la croix un symbole de force et de foi. Elle reste unie à Jésus. Dans nos épreuves, nous devons apprendre à rester unis à Jésus. Vous voyez, quand vous contemplez un crucifix, imaginez que je pose un crucifix là, au milieu, en face de vous, vous voyez le Christ et au pied du crucifix, vous voyez Marie et le petit groupe des amis du Christ. Si vous faites le tour, vous voyez quoi? Deux morceaux de bois entrecroisés et il n'y a rien d'autre. Mais ça, c'est selon le côté, de face ou de dos, vous regardez les épreuves, la souffrance, la croix avec foi ou sans la foi. Alors il faut la regarder du côté de la Vierge Marie et du côté du Christ. Parce que sinon, si vous la regardez de dos, de l'autre côté, la souffrance, elle nous broie, elle n'a pas de sens, elle est absurde, elle écrase tout sur son passage. Donc Marie, au pied de la croix, est une lumière. Parce que parfois, on pourrait dire, le Christ, il est mort sur cette croix, donc ce n'est pas un signe d'espérance. Eh bien, pour s'assurer que le chrétien contemple la croix, mais contemple Jésus en croix, pas la croix toute seule, eh bien, la Providence a veillé à ce que Marie soit là, au pied de cette croix, comme une grande lumière, une présence d'amour pur. Enfin, c'est l'espérance sans faille qu'incarne la Vierge Marie. Elle a, au pied de la croix d'abord, mais dans toute sa vie, une espérance contre le doute, une espérance contre l'usure. Marie, c'est celle qui ne s'est jamais usée spirituellement. Nous, on a tous des périodes dans nos vies, même si on est solide, où on s'use un peu. Il faut se redresser, se remettre à prier avec plus de ferveur, etc., se confesser, que sais-je. La Vierge, linéaire, et une ligne droite qui monte en plus vers le ciel. C'est vertical donc. La Vierge, c'est incroyable, c'est un miracle en soi. Parce qu'elle vit dans ce monde, elle contemple l'invisible, parce que au-delà de toutes les épreuves de la vie, de toutes les misères et les laideurs de la vie, car elle en comporte beaucoup, elle sait regarder bien ce qui est beau et ce qui est le bonheur de l'éternité. Elle nous apprend à avoir ce regard de sagesse qui nous permet continuellement de maintenir cette espérance allumée comme une flamme et qui nous permet de nous guider en ce monde. Donc l'éternité est bien la lumière qu'il nous faut contempler nous aussi à travers les yeux de Marie. Le monde moderne, c'est Babylone. Je conclurai là-dessus. Dans l'Apocalypse, le Seigneur, quand le fruit est bien mûr, quand Dieu en a vraiment assez, nous ne saurons pas quand ça arrivera, mais quand il en aura vraiment assez, nous entendrons tous ce cri « Sors de la ville, ô mon peuple !» Et sous-entendu, quand on connaît l'Apocalypse, « Va au désert rejoindre la Vierge Marie qui s'y tient. » Leur demandons au Seigneur de nous permettre d'imiter Marie, d'en avoir d'abord le désir, et puis de comprendre, de nous laisser instruire par elle pour comprendre comment faire.